Plaisir d'accueillir Jean-Gaël Barbara, qui est chargé de recherche au CNRS, rattaché à la fois à une UMR de sciences, neurobiologie des processus adaptatifs à l'université Pierre et Marie Curie, et à une UMR d'histoire des sciences, le RESEIS de l'université de Paris 7, qui est un spécialiste de l'histoire des neurosciences et qui va nous parler donc des recherches de physiologie cérébrale au temps de Comte. Je vous laisse la parole.
Merci. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs pour m'avoir invité de parler de physiologie cérébrale donc au temps d'Auguste Comte. Je ne vais pas seulement parler de cette physiologie cérébrale, je ne vais pas parler des rapports entre cette physiologie et la psychologie, mais plutôt en fait les rapports avec Auguste Comte, c'est-à-dire ce que Auguste Comte en retire, et finalement des regards croisés entre Comte, cette physiologie, sa physiologie, et la physiologie aussi vue par les anatomistes, et vice-versa. Alors, lorsqu'on considère les rapports entre un philosophe et une science, bien sûr, ces rapports ne peuvent pas se limiter à des échanges réciproques et contemporains avec un domaine scientifique conçu comme délimité ou même en voie de constitution, car si une philosophie est fixée à un moment donné, la science finalement à laquelle elle se rapporte n'est ni simplement celle du passé qui en fonde le plus souvent l'analyse, ni celle contemporaine qui est perçue inévitablement de façon partielle, ni même une version future amendée ou espérée. Dès lors, les rapports complexes entre la philosophie d'Auguste Comte et la physiologie cérébrale nécessitent une série de distinctions franches entre les physiologies anciennes et contemporaines, telles qu'elles se manifestent dans différentes communautés scientifiques, et celles ressortant des analyses qu'on tient, qui en sont des représentations critiques et partielles. Et c'est un petit peu en ce sens qu'on peut interpréter l'idée de Bergson d'une opposition entre la connaissance scientifique et la connaissance philosophique. Je cite Bergson, « La philosophie n'est pas une synthèse des sciences particulières. La première, donc la science, s'extériorise par rapport à elle-même dans l'exacte mesure où elle aperçoit des choses extérieures les unes aux autres, tandis que la seconde, la philosophie, rentre en elle, se ressaisit et s'approfondit. » Il est dès lors assez surprenant, en dépit de la forme même du cours de philosophie positive, qu'on ait pu chercher à savoir si la biologie d'Auguste Comte reflétait la science de son temps, si elle en prolongeait les évolutions par des recommandations utiles. Si le but de la philosophie comtienne était réellement de synthétiser cette science, il serait sans doute judicieux alors d'énumérer les domaines qu'il a pu ignorer ou qu'il a même délibérément sous-estimé pour annoncer une science à venir. Si en revanche le projet contient est considéré comme autonome, bien que bien évidemment fondé sur la science, dans une perspective qui la dépasse et la déborde, il paraît plus judicieux d'analyser ce qu'est la science contemporaine de Comte, comment et pourquoi certains domaines infiltrent son projet philosophique, à quel résultat aboutit cette réflexion, comment se trouve fondée philosophiquement une définition kantienne de cette science, et aussi quelle autre voie aurait pu être choisie par la prise en compte d'autres domaines scientifiques. Le domaine de la physiologie cérébrale est de ce point de vue assez représentatif de la disjonction qui peut exister entre une conception kantienne et un domaine en voie de différenciation, notamment par la méthode expérimentale, qui est un champ de constitution de la physiologie qui est largement laissé de côté par Comte. Si le terme de biologie apparaît dans le cours à la 36e leçon consacrée à la chimie organique, la physiologie apparaît dès la leçon précédente, où elle représente une discipline qui est définie par sa place dans l'ordre de perfectionnement croissant des disciplines physique, chimie, physiologie. Ainsi définie, hors du champ de la biologie kantienne, la physiologie, dont la chimie est un auxiliaire important, est, suivant une acception alors courante, la partie de la médecine qui traite des parties du corps humain. Mais lorsque Comte fait surgir à la 45e leçon la physiologie cérébrale, comme synonyme d'une phrénologie physiologique, sa position a quelque peu changé quant à sa définition d'une physiologie générale. Cette physiologie n'est plus simplement une étude des constituants du vivant, mais une approche qui est basée sur l'expérimentation, mais aussi sur des approches comparatives, d'anatomie comparée, et la comparaison entre l'état de santé et les états pathologiques. Cette physiologie n'est plus la physiologie expérimentale qui associe la vivisection et les analyses chimiques. En constituant sa physiologie cérébrale, Comte applique donc son double principe d'unité de méthode, d'homogène continuité de doctrine, en maintenant une liaison avec la saine physiologie, c'est-à-dire sa physiologie positive. Alors, cette opération s'effectue en fait sous l'emprise d'anatomistes, Bichat, de Blainville, Cuvier, Gall, dont le talent les autorise à penser philosophiquement, mais aussi dans l'exercice de leur art, un certain rapport entre l'anatomie et la physiologie, où bien sûr l'anatomie est première, tout en effaçant son opposition à la physiologie. Kant refuse ainsi la distinction vulgaire entre anatomie et physiologie, qui sont amenées à s'associer en harmonie dans la biologie, c'est la conception de Bichat, et à en représenter une même approche statique, qui est ici la description de Blainville. Bien que pourtant consentie de plein droit comme l'une de ses méthodes, l'expérimentation, pour Kant, reste en marge de la physiologie générale, alors qu'il se garde de répudier, bien sûr, complètement cet art. Je cite Kant, « Malgré cette sévère appréciation philosophique de l'art expérimental, appliquée aux recherches physiologiques, personne ne conclura, je l'espère, que je veuille d'une manière absolue condamner son usage en biologie. » Toutefois, ainsi que l'a noté Paul Tenry, la critique kantienne de la physiologie expérimentale est tout de même assez radicale et très sévère. Pourtant, Kant ne peut ignorer qu'il prend position contre l'évolution apparente de la physiologie de son temps, et même qu'en défendant les principes de localisation cérébrale des facultés, il prend parti pour Gall, qui est généralement récusé pour sa doctrine. Depuis l'époque des travaux de Haller, puis celle de Bichat, la physiologie expérimentale est constituée par des pratiques assez spécifiques, de manière récurrente, avec des périodes tout de même d'interdiction de la vivisection, constituée donc par Galien aux chirurgiens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Cette physiologie entre finalement assez naturellement dans les études anatomiques, physiologiques et médicales des écoles de médecine. À Montpellier, par exemple, Jacques Lorda, qui est professeur d'anatomie et de physiologie, en recommande la pratique dans un nouvel esprit où les faits recueillis prévalent désormais sur les théories médicales, en condamnant cependant une certaine tentation, qui existe à cette époque, à expérimenter sans ligne directrice de recherche. Je cite Lorda, « Bien des gens étudient la physiologie uniquement pour satisfaire leur curiosité et pour essayer les forces de leur esprit sur une science qui présente autant d'attraits qu'aucune autre. Il n'est pas sûr pour vous de les prendre pour guide. Quant à vous, jeunes élèves, vous vous êtes appelés à exercer cet art dont le but est de soulager nos maux physiques et de réparer les désordres qui troublent l'économie de notre corps. La première étude qui doit vous occuper est celle des lois de cette économie, donc la physiologie. La physiologie humaine n'est donc pas pour vous une science de pure spéculation, donc pas une science purement théorique, puisqu'elle est la base sur laquelle reposent les dogmes et les règles de la médecine pratique. L'influence de cette première étude aura sur toutes celles qui la suivront vous fait devoir de préférer la méthode la plus sévère. Il ne vous est pas permis de négliger les moyens les plus sûrs de parvenir à la vérité, fussent-ils les plus dégoûtants, avec ici une allusion à la vivisection, ni d'adopter la théorie la plus brillante si elle est en opposition avec un seul fait. Alors cette méthode de physiologie expérimentale est une pratique adoptée non seulement par les physiologistes expérimentalistes, mais aussi par les médecins, comme Étienne Serre, qui associe physiologie et analyse pathologique, ou même par les zoologistes, comme de Blainville lui-même, qui a expérimenté par exemple sur la sensibilité des ganglions nerveux. Pourtant, Kant ne cesse de multiplier les jugements négatifs à l'égard de la pratique de la vivisection, dans laquelle l'analyse porte sur l'effet de la lésion d'un organe. Kant, la vie est bien moins compatible avec l'altération des organes qu'avec celle du système ambiant, et de plus, le consensus des différents organes entre eux est tout autrement intime que leur harmonie avec le milieu. Je fais ici d'ailleurs complètement abstraction de l'évidente considération sociale qui, non seulement à l'égard de l'homme, mais aussi envers les animaux, doit faire hautement réprouver cette légèreté déplorable qui laisse contracter à la jeunesse des habitudes de cruauté aussi radicalement funestes à son développement moral que profondément inutile, pour ne pas dire davantage à son développement intellectuel. Kant ne fait en fait que reprendre ici les critiques de Cuvier, par exemple, contre l'expérimentation, publiée en 1805 dans sa lettre à Mertru, qui sert aussi de préface à ses leçons d'anatomie comparée. Idée aussi de l'introduction de son règne animal distribué d'après son organisation. Kant sous-estime que Cuvier a aussi fait éloge dans les mêmes années de travaux de certains expérimentateurs comme François Magendy ou Pierre Florens. Kant n'a quant à lui pas ménagé en privé, du moins dans sa correspondance, ses attaques contre ces deux hommes. Au sujet des recherches sur le cerveau, Kant semble avoir médité Gall, notamment les conséquences épistémologiques des interprétations divergentes de Flourens et de son collègue italien Rolando, été énoncée à partir de leurs expériences d'ablation de parties du système nerveux. Comte est plutôt sensible à un même esprit qui rapproche les anatomistes, la croyance en la dépendance étroite des parties, les doutes que sème selon eux l'expérimentation physiologique, la place première que doit reprendre l'anatomie, et l'importance des méthodes d'anatomie comparée, utilisant l'échelle des animaux et aussi l'analyse des cas pathologiques. Gall est par exemple aussi proche de Cuvier dans cet esprit anatomiste général lorsqu'il estime que le praticien, je cite, « n'oubliera jamais que partout les organes tiennent ensemble, influent réciproquement les uns sur les autres, produit facilement une confusion de causes et d'effets indéchiffrables ». Comte reprend aussi le jugement de Gall sur l'expérimentation, je cite, « aussi, sauf un petit nombre d'heureuses exceptions, les expériences physiologiques ont-elles jusqu'ici suscité ordinairement des embarras scientifiques supérieurs à ceux qu'elles se proposaient de lever ». Pour Gall, ce qui est réellement en cause, c'est la mauvaise connaissance anatomique des physiologistes et la mauvaise circonscription des lésions réalisées. Je cite Gall, « nul doute que ce ne soit là une des causes pourquoi les expériences par mutilation et par lésion ont été jusqu'à présent si contradictoires entre les mains des divers expérimentateurs et pourquoi les résultats ont toujours été ou stériles ou au moins vagues, incertains, hasardés. » Comte conclut sur ce point au sujet du cerveau, et là je le cite, « sous le point de vue anatomique qui doit prédominer désormais, donc un leitmotiv de ces critiques, on voit aisément que, après avoir établi en général le principe incontestable qui érige le cerveau en véritable appareil, la répartition effective de cet appareil en ses divers organes constituants n'a plus été essentiellement dirigée que par des analyses purement physiologiques. » Donc une critique de l'analyse purement physiologique, le plus souvent fort imparfaite et même très superficielle, au lieu d'être directement subordonnée à de vraies déterminations anatomiques. Comte ne méconnaît pourtant pas les succès de la physiologie expérimentale, puisqu'il cite volontiers, selon son expression, les belles expériences de Le Gallois ou encore la distinction proposée par divers physiologistes contemporains entre les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Mais sans la condamner et en tentant aussi de l'amender, la physiologie générale comtienne favorise, dans l'esprit d'ailleurs de sa biologie, d'autres approches que l'expérimentation, où une comparaison peut être établie, selon lui, plus solidement qu'entre l'animal vivant, sain et lésé. Alors c'est ordinairement à Claude Bernard qu'on attribue la réfutation de la condamnation comtienne d'un quelconque intérêt pour les études dans lesquelles la physiologie expérimentale est première sur l'anatomie. En réalité, certains médecins et chirurgiens des XVIe et XVIIe siècles favorisent déjà la découverte des fonctions physiologiques par des opérations chirurgicales dont l'interprétation repose sur des analyses anatomiques ultérieures, même si, en réalité, il n'y a pas lieu de mettre en avant l'une de ces deux approches. Ces recherches se sont multipliées durant tout le XVIIIe siècle. En 1832, le journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales recense de nombreux travaux sur l'irritabilité et la sensibilité, par de nombreux noms, dont je vais vous épargner la liste pour gagner un peu de temps. J'en citerai tout de même quelques-uns. Sur le mouvement musculaire, on peut citer Prochaska, Carlis, Dumas, Prévost, et sur le système nerveux, Le Gallois, Gall, Rolando, Desmoulins, Florin, Serre, Burdard, Brousset. Avec l'essor de l'expérimentation physiologique, c'est la définition même de la physiologie qui se trouve modifiée. Dans l'édition de 1762 du dictionnaire de l'Académie française, la physiologie demeure la partie de la médecine qui traite des parties du corps humain dans l'état de santé, comme je l'avais rappelé au début, mais elle prend un tour plus dynamique dès l'édition suivante, en 1798, en devenant la partie de la médecine qui traite des principes de l'économie animale, comme on l'a vu dans la citation de Lorda, de l'usage et du jeu des différents organes. Il n'est donc plus seulement question de recenser les parties et d'en déduire des fonctions, mais bien de découvrir des principes cachés, principes du fonctionnement général des organes. Dans l'édition de 1832, le caractère expérimental de la physiologie se précise. C'est désormais la science qui traite des phénomènes de la vie, des fonctions des organes. C'est-à-dire qui explique donc les fonctions par des phénomènes qui sont élémentaires et généraux. Lorda, encore une fois, en explicite plus précisément le sens dans ses conseils sur la manière d'étudier la physiologie de l'homme. Je cite, « Ce sont donc les phénomènes corporels dans l'état de santé qui sont proprement le sujet de la physiologie. Quant à son objet formel, le voici. Ces phénomènes apparents ont pour cause d'autres phénomènes cachés qui se passent dans l'intérieur du corps. Il s'agit d'aller à la recherche de ces derniers, d'assigner l'ordre de leur filiation et le mode de leur combinaison, de suivre leur succession depuis les phénomènes apparents jusqu'aux actes les plus élevés que notre esprit puisse apercevoir dans ces chaînes. » de déterminer le nombre des principes d'action d'après celui de ses actes et d'établir des lois selon lesquelles ces agents produisent leurs effets. Cependant, l'écart entre cette conception et celle de Comte est moins grand qu'il peut y paraître, puisque cette physiologie générale suppose la nécessité faite aux physiologistes de mieux connaître l'anatomie. Lorda insiste aussi sur la primauté de l'anatomie avant de procéder à toute vivisection. La différence se situe donc plutôt entre, dans l'appréciation générale sur l'intérêt de la vivisection. Lorda, en mettant à découvert les organes cachés dans un animal vivant, n'y aperçoit les phénomènes de mouvement et de couleur et généralement tous ceux qui peuvent frapper la vue. Nous jouissons ainsi d'un spectacle qui nous intéresse plus encore par sa singularité que par les connaissances directes que nous en tirons. Ce désir est général, il est raisonnable. Au lieu de le blâmer, reconnaissons hautement l'utilité du moyen qui nous sert à le satisfaire et disons que pour toutes les fonctions qui tombent sous les sens, qui sont communes à l'homme et aux animaux, les vivisections nous procurent un avantage réel en nous fournissant l'occasion de les observer de nos propres yeux. Donc un intérêt pour la vivisection, mais qui n'est toutefois pas hautement placé en très haute estime. À partir de la définition classique de la physiologie à la fin du XVIIIe siècle comme étude des constituants du corps humain, divergent donc deux conceptions. La conception kantienne qui s'efforce de définir une science positive théorique largement anatomique et empreinte de rigueur épistémologique, et une conception où l'anatomie se marie naturellement à la vivisection, rétablit un nouvel équilibre avec la physiologie dans un esprit plus empirique, entreprenant, et cependant encore peu institutionnalisé, où les convergences disciplinaires se nouent désormais autour de l'approche expérimentale. La physiologie cérébrale qui émerge avant 1835 est assez significative de cette évolution avec l'essor des vivisections et la multiplication des discussions suscitées par la confrontation des données expérimentales d'anatomie normale comparée et pathologique. Cette branche de la physiologie est investie par plusieurs générations d'anatomistes, de physiologistes, de médecins, qui sont généralement nés entre 1770 et 1800, qui se réclament généralement de Gall, de Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire, de Le Gallois, de Bicham, à la Carne, pour les Italiens, et les anciens maîtres de l'école de Paris. S'il est encore possible de distinguer des professeurs d'anatomie parmi les principaux auteurs des ouvrages de physiologie cérébrale, comme Rolando, Tidman, Serre, les autres auteurs sont essentiellement des étudiants en médecine qui ont pratiqué pour un temps la chirurgie, parfois sur le champ de bataille. On peut citer François Magendy, Florins, Desmoulins, Bouillot, Leray, Fauville. Mais entre la formation initiale, le poste obtenu en fin de carrière et les travaux d'intérêt de physiologie cérébrale, aucune corrélation stricte n'apparaît. Les anatomistes et les praticiens médicaux s'initient à la vivisection, comme Rolando, Serre et Bouillot, tandis que certains médecins se spécialisent en anatomie, Leray, notamment en collaboration avec Graciolet, font usage de l'analyse des cas pathologiques, comme Bouillot, Serre et Fauville, ou accordent plus ou moins d'énergie à la physiologie expérimentale, comme le Front, Magendy, Florins, Bouillot. De plus, cette physiologie est loin de s'appliquer seulement à l'étude du cortex. Elle recherche les fonctions ou l'influence des parties du cerveau sur des phénomènes physiologiques, en distinguant certaines régions dans les hémisphères, les lobes cérébraux, mais aussi dans le cervelet, la moelle allongée, c'est-à-dire le bulbe brachidien, la protubérance, les pédoncules cérébraux et cérébelleux. La vivisection bénéficie d'un attrait nouveau chez les anatomistes et chirurgiens, surtout bien sûr depuis la popularisation de Bichat, par Bichat des méthodes de Haller, mais son expansion est parfois réalisée au détriment d'une certaine rigueur perdue, notamment une rigueur anatomique, qui avait fait l'apanage des chirurgiens. Un siècle plus tôt, le chirurgien militaire François Pourfour du Petit réussissait par exemple pour la première fois l'extirpation du cervelet sur un chien qu'il put maintenir en vie pendant 6 jours, ce qui était alors un exploit, suffisamment en tout cas pour réfuter la conception de Galien du rôle de cet organe dans la sensation. Cependant, c'est au cours des premières décennies du XIXe siècle qu'une communauté d'anatomistes, médecins et physiologistes comprend l'intérêt central mais aussi la grande difficulté de l'art de la vivisection. Les leçons sur les fonctions et les maladies du système nerveux de Magendy mettent en garde l'amateur inexpérimenté et il répond aux détracteurs de cette méthode. Je cite « La vivisection constitue un art véritable, cet art est difficile, s'acquiert par l'habitude, exige une sorte de dextérité et de présence d'esprit qui doivent être naturelles. Vous voyez tous les jours des anatomistes fort habiles pour faire une préparation sur le cadavre, échouer quand ils essaient d'agir sur l'homme vivant. Ne soyez donc pas surpris si le témoignage des expérimentateurs est parfois contradictoire, donc une réponse à Comte et Cuvier. C'est que les uns ne savent pas comment s'y prendre, d'autres sont inhabiles de leurs mains, d'autres enfin réunissent ces deux conditions défavorables. Pour l'ensemble des pratiquants de la vivisection, l'expérience reproduit chez l'animal l'effet de lésions traumatiques ou de maladies localisées, ou encore cherche à stimuler mécaniquement, chimiquement ou électriquement certaines parties bien délimitées. L'ensemble de leurs travaux vise à découvrir des localisations ou non-localisations cérébrales de certaines fonctions et facultés chez différents animaux. Pour Fort-du-Petit, comme je l'ai montré, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, a démontré que le cervelet n'était pas le siège obligatoire des sensations. Le Gallois découvre le centre de la respiration dans la moelle allongée. Florence et Rolando montrent que le cervelet est impliqué dans l'équilibration de la posture. Cependant, l'anatomie comparée demeure essentielle pour comparer les résultats obtenus sur divers animaux, pour délimiter les opérations physiologiques et corréler leurs résultats au plus ou moins grand développement des parties cérébrales dans l'échelle des animaux. La confrontation de l'anatomie pathologique aux résultats de la physiologie est constante. Elle permet à Bouillot de proposer que le mouvement, l'intelligence, la parole et la vision dépendent de régions corticales. La diversité des approches et des questions aboutit à quelques consensus tout de même, mais beaucoup de divergences. Voyez, dit de Blainville, que de divergences il y a entre les travaux les plus avancés, les plus consciencieux de nos anatomistes modernes, comparés ceux de messieurs Gall, Spurzheim, Tiedemann, Serre, Florence, Desmoulins, Magin, Desfauville. Tous sont d'accord, et je le suis en partie avec eux, sur la pluralité des organes nerveux. Une même idée générale domine dans tous leurs ouvrages, mais dès qu'il s'agit de faire l'application de cette idée, de la poursuivre dans les détails, l'accord cesse, parce qu'on entre dans un champ où l'on ne peut encore marcher qu'à tâtons, la science ne possédant pas jusqu'à ce jour une véritable psychologie, une psychologie positive sur laquelle tout le monde doit être d'accord. Le physiologiste doit-il donc tenir compte des facultés intellectuelles et affectives, les classer, les définir, les localiser ? Voici qui n'est pas encore très clair pour Magendie. Je cite « Les passions sont des sensations internes, elles ne peuvent avoir de siège, elles résultent de l'action du système nerveux, et particulièrement de celle du cerveau, elles ne comportent donc aucune explication. Ce serait le lieu de traiter ici de l'usage des diverses parties du cerveau dans l'intelligence et dans les facultés instinctives. » Mais ce sujet est, pour Magendie, encore trop conjectural ou trop peu connu pour entrer dans un livre élémentaire. Nous nous occupons depuis longtemps d'observations et d'expériences directes sur ce point. Nous nous empresserons d'en faire connaître les résultats aussitôt que nous le jugerons digne d'être rendu public. Les recherches physiologiques, anatomiques et pathologiques du cerveau rencontrent, en effet, durant les premières décennies du XIXe siècle, donc plus d'obstacles que de succès, en raison des faibles convergences des données, et ceci contrairement aux recherches réalisées sur la moelle épinière. Dans ce dernier organe, les sections expérimentales, les traumatismes, les lésions pathologiques ont des effets beaucoup plus comparables, tout du moins si leurs circonscriptions spatiales sont du même ordre. Il suffit alors d'en faire correspondre le niveau, leurs données vertébrales, aux paralysies, aux défauts de sensation et pertes de réflexes. Cette analyse est encore possible pour le bulbe rachidien, et ce sont des sections étagées très petites qui ont été réalisées à l'emporte-pièce, qui permettent de préciser le nœud vital par Florence. Mais pour les autres parties encéphaliques, les divergences proviennent d'un défaut des pratiques, des difficultés à comparer les résultats obtenus sur des espèces animales et sur l'homme, des différences de nature aussi entre les lésions aiguës et chroniques, ou encore la grande variété des cas pathologiques. Les recherches sur les fonctions des parties encéphaliques aboutissent à d'innombrables questions et quelques idées générales. Les lésions de la protubérance annulaire et des pédoncules cérébraux et cérébelleux provoquent par exemple des troubles de la posture, une courbure du corps de l'animal. Selon Magendie, Desmoulins et Florence, les tubercules quadrijumeaux et bijumeaux semblent impliqués dans la vision. On recherche les fonctions de la glande pinéale, des couches optiques, des corps striés, du corps calleux, des ventricules ou encore de la corne d'amont, c'est-à-dire l'hippocampe. Les travaux les plus ambigus concernent donc les lobes cérébraux, c'est-à-dire les hémisphères proprement dits. Si certaines régions sont à la fois excitables, c'est-à-dire leur stimulation provoque un mouvement ou du moins une convulsion, et sensibles, induction d'une souffrance et d'une douleur, certaines parties de ces régions ont l'une seulement de ces deux propriétés, ce qui confirme l'idée de l'anatomiste Swedenborg d'une zone corticale spécialement vouée à la volition des mouvements. Dans leur ensemble, les grandes divisions des facultés de l'âme, mouvement, sensation, intelligence, sont considérées comme dépendant exclusivement des lobes cérébraux. Il n'est cependant pas exclu que certaines formes de sensations soient élaborées à des étages inférieurs du système nerveux, de même pour des réflexes moteurs comme ceux de la respiration par exemple, alors que certains mouvements peuvent être coordonnés par le cervelet, comme l'avait montré Florin Cerolando. Dans un tableau de physiologie cérébrale, la figure de Gall apparaît en réalité assez peu, même si un médecin comme Bouillot s'en réclame. Or, Gall est, vous le savez, l'intermédiaire obligé choisi par Comte pour l'analyse de ce domaine. L'étude de la relation de Comte à cette physiologie réclame donc de considérer comment Gall s'y intègre et y est perçu. Pour la période précédant les années 1830, c'est-à-dire l'écriture de la majorité du cours, il faut dépasser l'hostilité commune suscitée par la cranioscopie gallienne, selon laquelle l'analyse des protubérances permettait de préciser des facultés individuelles. Florence a rapporté de nombreuses anecdotes peu flatteuses sur la croyance naïve en de telles corrélations. Le physiologiste allemand Johannes Müller s'est exprimé dans son précis de physiologie à travers un jugement de Bonaparte qui précisait le caractère non naturel des facultés retenues par Gall. Le contraste est cependant assez saisissant entre ces jugements, qui sont d'ailleurs assez peu fréquents chez les physiologistes, et les faibles critiques pour les opinions physiologiques générales de Gall à cette époque, qui sont affaiblies par les louanges de toutes parts pour ses travaux d'anatomie. Nul besoin donc de mentionner que la philosophie générale de Gall plaît à cette époque aux physiologistes. Le jeune Florin semble être l'auteur des différents articles d'analyse de l'anatomie et physiologie du système nerveux de Gall, publié dans la revue encyclopédique, où les critiques terminologiques sont nuancées, notamment sur l'emploi du terme âme, et côtoient une sincère adoption des principes généraux de l'ouvrage. Florence accepte la confusion, sur laquelle il reviendra plus tard, entre les facultés et les fonctions du cerveau. Les physiologistes qui font généralement cette distinction discutent plutôt librement les résultats anatomiques et les opinions physiologiques de Gall. Le principe des localisations est parfois rejeté, comme le fait Magendy, mais d'autres physiologistes, comme Richerand, sont plus nuancés. Les nuances dans le jugement de la doctrine de Gall trouvent parfois des justifications dans l'analyse anatomique, mais c'est aussi sur son étude que certains auteurs, comme Brousset, fondent leurs croyances. Gall devient donc, pour les physiologistes, un auteur à la fois incontournable, qu'on hésite à citer, dont on ne sait trop que faire quand il s'agit de physiologie cérébrale. Alors dès lors, pourquoi Comte, amené à l'analyse des facultés intellectuelles et affectives de l'homme, opte-t-il de façon aussi délibérée pour la doctrine de Gall? Il serait ici assez difficile de rassembler les diverses interprétations qui ont été retenues par différents auteurs. Qu'on ait considéré que Comte voit en Gall le principal opposant du sensualisme de Condillac et des psychologues métaphysiciens, ou qu'on ait vu dans l'opposition de Comte à Lamarck sur le pouvoir déterminant du milieu de l'organisme le motif d'adoption de l'unité gallienne des facultés de l'âme. D'ailleurs, il semble de ce point de vue que Comte aurait pu choisir un autre physiologiste de son temps, même si la physiologie était encore largement tournée vers une physiologie des sensations que Comte a critiquée. Mais ce qui distingue essentiellement ces physiologistes de Gall, c'est, nous l'avons vu, une certaine réticence à localiser des facultés, à les superposer à d'hypothétiques fonctions cérébrales. Or, le projet qu'on tient de philosophie envisage dans sa sphère de compétences, dès la première leçon du cours, l'étude des lois logiques de l'esprit humain, en dehors de toute détermination strictement expérimentale. Pour Comte, l'étude dynamique des phénomènes de l'esprit, c'est-à-dire l'étude des fonctions et facultés du ressort de la philosophie positive. À l'instar de Gall, Comte ne fait pas de distinction entre les facultés définies par la philosophie et les fonctions qui seraient l'objet de la physiologie expérimentale. Dès le début, le cours est marqué par une fidélité aux conceptions anatomiques de la biologie qui intègre Gall, s'en inspire, la suit finalement de près dans l'analyse des facultés. Entre l'anatomie et la physiologie, le choix qu'on tient pour la première est clair dans l'étude des fonctions intellectuelles. Le concept de fonction que Comte élabore et qui a été précisé dans un article de Laurent Clausade est assez significatif de ses choix en se concentrant sur une définition basée sur une interaction de l'homme avec son milieu. Pourtant, si Comte n'exclut pas l'étude physiologique par la méthode expérimentale, il en conçoit les progrès dans la mesure où l'analyse procède du simple au complexe. Cependant, Comte abandonne de tels principes de hiérarchie scientifique dans l'attente d'une physiologie animale positive, en attribuant l'étude des facultés intellectuelles à une troisième physiologie basée sur l'anatomie, inspirée de Gall, largement théorique, une position qui apparaît, selon une expression de Canguilhem, comme un rebroussement de la méthode positive que Comte développera entièrement dans le système et qui lui permet d'intégrer une approche différentielle des facultés. La rupture avec la physiologie cérébrale expérimentale est donc totale et l'adoption de Gall est bientôt nuancée par certaines corrections apportées dans ses classifications de facultés. Lorsque Comte rédige le système au cours des années 1850, la réaction des physiologistes aux travaux et à la doctrine de Gall a pris une nouvelle dimension académique. Dès 1823, les travaux de Florence ne lui permettent plus d'être en accord avec les conceptions générales de Gall. Cependant, s'organise bientôt une attaque du système de Gall dans des ouvrages de réflexion et de synthèse, comme le résumé analytique des observations de M. Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux, l'examen de la phrénologie de Florence. Je vais sauter quelques mentions d'ouvrages. Finalement, en fondant sa physiologie cérébrale sur une sociologie lui permettant de réformer Gall, Comte se situe donc résolument hors du champ des critiques scientifiques de la phrénologie. Comte ne perçoit pas qu'en réalité, la physiologie expérimentale et l'anatomopathologie progressent chaque jour. La révolution bernardienne est bien en marche et les conditions matérielles et institutionnelles qui vont rendre possible la localisation de Broca se mettent en place. Le paradoxe, c'est que ces évolutions se fondent en partie sur les doctrines de Gall et de Comte, tout en s'en éloignant fortement. Par exemple, avec Claude Bernard, la dépendance des parties et la nécessité d'étudier un organisme vivant dans son ensemble ne sont plus invoquées pour critiquer la vivisection et prôner l'anatomie comparée, mais inversement, pour réfuter la déduction anatomique, l'analyse morphologique et mettre en avant la recherche des fonctions dans l'animal intact dont la vie accepte l'instrument qui s'adapte et se laisse oublier comme une ruse faite à la vie, pour reprendre une autre expression de Canguilhem. Comte représente pour la physiologie cérébrale de son temps le système de Gall et plus généralement le pôle anatomique de l'étude des facultés cérébrales dont les distinctions dynamiques font l'objet dans l'enquête générale de l'homme en société. En réalité, Comte n'a pas vu que l'équilibre qu'il prisait entre l'anatomie et la physiologie était biaisé par les auteurs mêmes qu'il avait sélectionnés et suivis. Il est difficile de prévoir ce qu'aurait pu être une autre voie si Comte avait davantage considéré la physiologie expérimentale. Aurait-il pu tenir ses principes d'unité, de continuité des doctrines, de hiérarchie des disciplines en respectant un écart entre les facultés psychologiques et les fonctions physiologiques déterminées par l'expérience? La multiplication des ouvrages sur les fonctions du cerveau par Pinel, Bouillot, Autier, Cano, ou encore l'article sur, du même titre publié par Claude Bernard dans la revue Des Deux Mondes, indique que la physiologie expérimentale du cerveau s'éloignait de l'élaboration théorique des facultés, en précisant le rôle de régions encéphaliques dans des régulations nerveuses physiologiques. Dès lors, le projet contient d'une biologie théorique générale des fonctions des plus simples aux plus complexes, certes basée sur des faits, mais émancipée d'une dépendance stricte à l'art expérimental, ne pouvait intégrer une physiologie cérébrale multiforme, associant une diversité d'acteurs, anatomopathologistes, physiologistes, anatomistes, qui parvenaient néanmoins à échanger leurs points de vue de manière constructive entre donc le rêve de rassembler les observations, d'élaborer des conceptions générales en maintenant une harmonie entre les faits déjà connus et celui de placer l'art expérimental au cœur du dispositif jugeant des fonctions des différents organes. Comte est relégué sans hésitation au premier, à celui de la fin du XVIIIe siècle, à une époque où se posent les prudents anatomistes et médecins, rejetant les nouveaux instruments scientifiques, et les hardis physiologistes, apprentis chirurgiens, critiqués pour leur vivisection. Le héros du siècle n'est plus le jeune anatomiste, tel à l'heure qui disséquait encore furtivement à Paris des corps volés dans son domicile, mais c'est bien le physiologiste, élève de médecine, praticien de la chirurgie, dont les références sont Harvey et Lavoisier. La physiologie cérébrale d'Auguste Comte, dès le début du cours jusqu'au système, n'a fait que se laisser distancer par une autre qui annonçait Claude Bernard et Broca, et paradoxalement, les succès des localisations cérébrales. Je vous remercie.
Bien, écoutez, je vous remercie pour cet exposé très riche sur l'absence de rencontre entre Comte et la physiologie émergente, d'une certaine manière.